Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de table, vous le savez, l'émission qui mange le morceau tous les week-ends. Bonjour, bienvenue avec Manuel Mariani, critique gastronomique et critique tout court d'ailleurs. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va bien. Une émission que vous avez décidé, puisque vous avez beaucoup d'humour, d'appeler...
Pardon, j'ai donné un nom à Dessus de table?
Non, l'émission d'aujourd'hui, vous avez donné un nom.
Ah bah, le curry?
Oui.
Pourquoi? Je vais donner un nom en particulier?
Ah oui, tout à fait. Très en particulier. Le curry jaune ou le gilet jaune?
Ah oui, bah oui, non mais attendez, mais c'est un petit clin d'œil parce que rappelez-vous.
Ah, voyez, donc vous n'assumez pas vos traits d'humour,
non,
Manu.
Non, mais j'avais oublié, j'étais déjà passé à autre chose.
Oui, oui.
Je préparais déjà la vanne suivante. Quoi.
Le curry, c'est très très bon pour, puisque c'est vous qui me le disiez, pour la tête. Hein.
Voilà, mais alors attendez, parce que le parallèle avec le curry jaune et le gilet jaune, rappelez-vous, Philippe, les premières manifestations de gilet jaune qu'il y a eu, c'était un dimanche et on avait fait une émission sur la banane et j'avais fait déjà un petit rapprochement entre la banane jaune et les gilets jaunes. Donc c'est notre façon de soutenir les manifestants qui
c'est du comique de répétition. On va parler du curry aujourd'hui, le curry dans tous ses états. Curry ou curry, c'est la même chose?
Ouais, alors curry, c'est un mot tamoul. Hein. Le curry, en fait, comment dire? Curry, c'est un mot tamoul qui signifie... c'est le nom du plat en fait. C'est comme si on parle de couscous, mais couscous quoi? Couscous bolognaise, couscous de Marrakech, etc. Vous voyez, c'est pareil.
Mais c'est pareil pour le curry.
Voilà, curry c'est un mot générique. C'est le plat cuisiné qui s'appelle le curry. Par contre, le mélange d'épices, selon les pays, ça, en Thaïlande, ça, on va le voir avec nos invités, on appelle ça des pâtes d'épices, comme en Indonésie, Philippe, hein, comme en Malaisie. Alors que on parle de Massaman, par exemple, en Inde, ça on le verra aussi avec...
Oui, puisque là, en fait, on pense que c'est indien, mais le mot n'existe même pas en Inde. Notre premier invité, Manu.
Alors, notre premier invité, c'est Ot Somvat, thaïlandais, c'était le premier chef du Blue Elephant, c'est là que je l'ai connu, on en parlait tout à l'heure, il y a près de 30 ans, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Bon, je sais pas, on devait être très jeune alors.
Hein. Ah, merci. J'ai quand même 54 ans, voilà.
Voilà, Ot Somvat qui a fait les beaux jours du Blue Elephant où vous aimiez vous aller manger, Philippe.
C'était à l'ambassade de la cuisine thaïlandaise à Paris des années 90.
Le premier très très grand, le premier restaurant gastronomique thaïlandais, même s'il y avait des bons restaurants thaïlandais à Paris. Mais c'est vrai que le Blue Elephant, c'était un restaurant d'exception, du moins du temps d'Ot Somvat, parce que moi j'ai arrêté d'y aller après, parce que ça a beaucoup baissé. Je vais pas lui passer la pommade à Ot, hein, mais ça a beaucoup baissé après son départ. Et Ot vient de créer son restaurant à lui. À Arcueil.
Ouais, ça s'appelle Restaurant Banat.
Banat, voilà, on va donner l'adresse tout à l'heure, où il fait effectivement sa cuisine, qui est une cuisine thaïlandaise, d'inspiration thaïlandaise, mais comme c'est un vrai chef et un grand chef, Ot Somvat, il a une cuisine d'auteur, et donc il crée des choses. Donc il y a du traditionnel thaï, mais aussi des créations, des plats signatures, ouais, comme on dit.
C'est ça, ouais.
Voilà, donc on va en parler avec Ot.
Alors, Ba'an, qu'est-ce que ça signifie?
Ban?
Oui.
Ban, c'est, signifie la maison. Maison. D'accord. Ouais.
C'est pour ça qu'en Thaïlande, on a plein de Ba'an.
Voilà.
D'accord.
Exact, ouais.
Et les Banyan, les hôtels, la chaîne d'hôtels Banyan, ouais.
Nat, c'est en fait le prénom de mon épouse.
D'accord.
C'est la maison de Nat.
La maison de Nat. C'est la maison de Nat, voilà.
Bon. Ouais. Très bien. Est-ce que c'est moi qui me fais des idées ou la cuisine thaïlandaise, elle est très, très, très épicée?
Ça va, c'est très très épicé, mais ça dépend des plats. On a la variété à tout, quoi. Il y a les sucrés, salés, on a tout, quoi.
Moi, de toutes mes expériences de cuisine thaïlandaise, en Thaïlande, je trouve ça très épicé.
Ouais, ça c'est les typiques asiatiques, là, parce que les Thaïs, ils aiment bien vraiment très très piquant et très levé.
Ouais, moi qui aime beaucoup j'arrive pas à me faire l'idée que la cuisine thaïlandaise serait très épicée, parce que pour moi elle l'est juste un peu. Enfin, moi je
oui,
mange
voilà.
Beaucoup de piment, voilà. Mais peut-être que vous Philippe qui avez moins l'habitude de manger très pimenté, c'est vrai que peut-être ça vous défrise, ça vous décoiffe un peu.
Ça arrache.
Ça arrache.
Mais il y a des salades qui sont assez fraîches, quoi, dans la cuisine thaïlandaise. Je pense au le lap, par exemple, qu'on fait pas toujours forcément très pimenté.
Ça, non.
Et puis il y a beaucoup d'herbes. Il y a dans la cuisine thaïlandaise, il y a beaucoup d'herbes fraîches, donc ça rafraîchit quand même un peu le piment. Bon, il y a pire. Hein. Puis de toute façon, dans les cuisines pimentées, il y a toujours plusieurs degrés de piment. On va le voir aussi avec la cuisine indienne tout à l'heure avec l'interview de Thai Absied. On peut dans toutes les cuisines où il y a beaucoup d'épices, on peut manger plus ou moins épicé. Il y en a un peu pour tout le monde.
Alors, le curry. Alors, c'est marrant de parler du curry parce qu'on a vraiment l'impression que le curry, c'est quelque chose qui n'est pas du tout thaïlandais.
Alors, en fait, en Thaïlande, nous, en France, on parle de curry vert, curry jaune, curry rouge. Mais, Aude va l'expliquer encore mieux que moi. C'est comme en Indonésie, en Thaïlande,
on prépare des... Vous dites qu'on parle de curry rouge et de curry vert. Mais pour moi, le curry, c'est jaune.
Ah non, bah alors le curry n'est pas forcément jaune. Puisque, je le rappelle, curry... D'ailleurs, c'est utilisé à tort puisque on devrait parler de pâte d'épices ou de mélange d'épices parce que certains pays utilisent des ingrédients frais. C'est le cas de la Thaïlande. On fait des pâtes comme en Indonésie, des pâtes d'épices à base d'ingrédients frais. Par exemple, le curcuma, il est utilisé en racines fraîches dans la cuisine thaïlandaise ou dans la cuisine indonésienne. Le gingembre également, alors que en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, là, on l'utilise en poudre. Hein, donc c'est une vraie spécificité. Et curry, c'est un terme vraiment générique. C'était un terme tamoul à la base qu'ont ramené les Anglais. Et puis après, le terme a fait le tour du monde. Donc on en parle pour la cuisine thaïlandaise, pour la cuisine indonésienne, etc. Mais curry, en gros, ça veut rien dire. C'est comme si vous appeliez tout couscous. Voilà. Mm-hmm. C'est exactement la même chose.
Ou tagine.
Voilà.
Donc et si le curry dans notre idée il est jaune, c'est parce que c'est dû donc à une épice.
Alors, une épice qui est le curcuma, qui est commun à pratiquement tous les currys. Ça, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée et que j'ai posée aux gens que j'ai rencontrés pour préparer l'émission. C'est vraiment dans tous les currys du monde, on retrouve pratiquement tout le temps du curcuma. Alors, parfois frais, parfois en poudre. Haute, je pense qu'il y a pas mal de préparations où on trouve du curcuma frais. On utilise du curcuma en poudre parfois dans la cuisine thaï.
Curcuma frais, moi j'ai utilisé comme curry jaune, par exemple.
D'accord, oui.
Mais curry vert, non. Il n'y a pas dans les curry vert.
Oui, curry vert, c'est beaucoup ouais. d'herbes. C'est,
voilà,
c'est
beaucoup d'herbes, c'est du piment. Et piment vert. Et curry rouge, c'est avec le piment rouge, à peu près les mêmes ingrédients qui se trouvent comme curry vert. Mais il n'y a pas de curcuma.
Alors ça, c'est mon curry préféré hein, dans les currys thaïlandais, le curry vert, parce que justement, il est très végétal. Hein, c'est un curry qui est à base d'herbes. Il y a beaucoup d'herbes. Il y a de la coriandre, etc. Et c'est un curry qui est vraiment très très parfumé. Et en plus, qu'on adoucit parce qu'on fait une pâte d'épices vertes. Hein, c'est ça.
Exact, ouais.
Qu'on peut faire à la maison d'ailleurs. C'est pas la peine d'acheter les petits pots qui ont aucun goût là avec du curry vert tout prêt. On peut tout, on met tout dans un mixeur. Hein, il suffit d'avoir une bonne recette. Hein, peut-être que Hot pourra nous en donner une tout à l'heure.
Si vous lui laissez parler, je pense qu'il va pouvoir vous donner une recette. Ça c'est sûr, Manu. Ouais. Mais encore faut-il que vous le laissiez parler.
Absolument. Alors je vais passer la parole à Hot, mais simplement je voulais dire que le curry vert, ce qui est sympa, c'est qu'on avec la quantité de lait de coco qu'on met dedans, on peut l'avoir plus ou moins épicé. À vous, Hot Sambat.
Oui, mais le curry, on va mettre partout, mais c'est mélange d'épices au départ. Le bas, c'est mélange d'épices. Et après, si pour le curry, par exemple, en Thaïlande, on a trois currys. La base, on trouvait facilement dans le marché. C'est pas de curry vert, pas de curry rouge et pas de curry massaman. Avec le curry vert, on peut faire plein de choses. Mmh. C'est par exemple le curry vert. Avec le pas de curry, on peut faire curry vert et on fait aussi des currys. Je peux faire aussi avec les currys noirs, avec la même pâte. Et après, ça dépend des ingrédients qu'on crée après. Après, je peux faire aussi.
C'est-à-dire que le curry noir, le noir, c'est la couleur vient d'où alors?
La couleur qui vient de sésame.
D'accord.
Ah oui. Noir. Voilà, sésame noir. Voilà. C'est bon pour la santé aussi. Hein.
Très bon, très bon. Ouais. Et le curry noir, on le retrouve aussi dans certaines cuisines indiennes et dans la cuisine tamoule, Philippe.
Oui. Et si je fais le curry jaune, mais je vais ajouter aussi les curcuma, les curcuma frais, et ça donne les couleurs jaunes, vous voyez. Ça. Après, ça dépend aussi à qu'on va cuisiner. On fait les currys. Comme avec le pâte de curry rouge, je peux faire aussi les currys aux arômes. Ça, avec le pâte de curry rouge, je fais les currys aux arômes. Après, il y a des bases aussi.
Qu'est-ce qu'on met comme agrumes, excuse-moi, dans ce curry aux agrumes, qu'est-ce qu'on met comme agrumes? On met du pamplemousse, du citron.
Il y a pamplemousse, citron,
ouais.
Et orange. Allez, toutes les familles un peu de.
D'accord, acides. Oui, on peut mettre vraiment un peu ce qu'on veut.
Ouais. Voilà, le tamarin.
D'accord, oui.
Voilà, et voilà.
Qui là n'est pas un agrume, hein, on le dit aux auditeurs quand même.
Ouais, je donne un peu acide quand même.
Ouais, qui a un petit goût acidulé.
Voilà, je donne un peu, voilà. C'est, voilà. Et voilà, mais après, par exemple, les currys, pour faire le bœuf, un peu plus, on s'appelle paneng.
Ah, curry paneng, ouais.
Ouais, paneng. Ça. Et paneng, on a ajouté, quoi. C'est le même ingrédient, c'est la même base que le curry rouge, le même ingrédient. Mais pour paneng, on doit ajouter des graines de coriandre, graines de cumin. Et aussi des cacahuètes. En fait, il faut bien mixer, en mélangeant, mais en fait, c'est pas, ça vient, il faut se soir le curry, ça vient pas trop liquide. C'est un peu,
Épais.
Épais, ouais. Quoi, voilà.
Alors ça, là, donc là, en fait, curry jaune, curry vert, curry rouge et curry massaman, ça c'est les currys de base.
Ouais.
Mais après, en fonction des ingrédients qu'on rajoute, il y a, des dizaines, voire des centaines de currys différents dans la cuisine thaïlandaise, c'est ça?
Exact, ouais. Ça, c'est ça. Après, ça dépend Ok, c'est pour moi le curry, c'est pas souvent chez nous on dit ouais il y a que le vert et le rouge. Mais non, on peut faire on fait plein de choses avec, mais il faut les créatifs et c'est tout quoi. C'est moi le curry c'est vivant, c'est pas on fixe quoi. C'est
une, voilà. Alors est-ce qu'il y a des currys qui sont pour les poissons et des currys qui sont pour les viandes ou alors ouais. Les currys marchent avec tout.
Pour moi je vais faire j'ai des currys. Pour le curry vert, pour le poulet. On peut mettre aussi les crevettes avec de la viande. Mais moi, je mets toujours là-bas le curry vert avec le poulet. Après, j'ai des curry jaunes pour les crevettes. Après, j'ai des curry rouges. Une autre façon, curry rouge pour le soupe, pour le, comment, le vrai canard.
Ouais, on mange beaucoup de canards dans la cuisine thaïlandaise.
Vrai canard. Et j'ai aussi les paneng pour le bœuf aussi. Et j'ai aussi le massaman pour l'agneau, massaman pour le filet de bœuf. Oui, c'est, on peut faire plein de choses. Voilà. Mais pour le poisson, je fais curry, rouge, je bats des curry rouges, mais j'ajoute toujours le fruit de mer un peu. Ça donne un peu parfumé côté les fruits de mer et le poisson, c'est différent par les curry, je les fais par rapport à mes confrères, quoi. Voilà.
Alors, on vous parlait vite du massaman, justement. Le massaman, il doit sa couleur un peu foncée, parfois un peu foncée, à la façon dont il est préparé. Vous m'aviez parlé de d'épices torréfiées avec le massaman.
Oui, le massaman, en fait, c'est pas la même chose. C'est un peu différent que les ingrédients de les curry rouges. À peu près la même chose, mais ils ont ajouté il y a des muscats aussi dedans, il y a des girofles aussi, il y a cardamone, vous savez, il y a cannelle en plus, tout ça. Et c'est pour ça qu'on fait torréfié.
D'accord.
C'est pour ça que la couleur se vient un peu, pas foncé, hein, c'est plutôt orange.
Oui, enfin, orange soutenu, quoi, oui.
Mais foncé, quand on l'a pas, c'est foncé, vous avez raison, c'est foncé. Mais quand vous ajoutez du lait coco, ça vient orange.
Oui, ok, oui. Voilà, le curcuma reprend ses droits.
ça donne couleur un peu orange, mais c'est beau.
C'est très bon le massaman. Le massaman, c'est très très bon. Avec l'agneau, c'est un plat, ça fait penser à la mourousia marocaine. Hein. Je fais souvent le parallèle.
Mais il n'y a pas que l'agneau. Hein. Vous faites massaman avec la viande, le filet de bœuf, par exemple. Ou c'est le filet de veau. Et comment le riz de veau, c'est ça on s'appelle comment?
Riz de veau, oui.
Riz de veau, c'est ça. Avec le riz de veau, c'est pas mal aussi. Hein.
D'accord. Ben je ne savais pas qu'on mangeait du riz de veau en Thaïlande.
Non, mais on ne mange pas. Mais je trouve, ici, je l'ai fait pour la...
Ça, c'est un de vos plats signature à vous, alors.
Voilà, je l'ai fait pour l'hôtel 4 étoiles à Bruxelles, là. Oui. Les Belges, ils ont adoré.
Oui, les Belges aiment beaucoup les abats, d'ailleurs. Oui.
Ouais, voilà, c'est pour ça. Ouais.
Et alors, si on devait, par exemple, donner l'exemple du curry le plus traditionnel en Thaïlande, c'est lequel? Le plat?
Le plat traditionnel, plutôt, c'est curry vert. Ça, partout, c'est populaire, curry vert. Ouais,
le poulet curry vert, on pousse la porte de n'importe quel restaurant en Thaïlande, on trouve un poulet curry vert. Voilà.
D'accord. Alors, c'est quoi le poulet curry vert?
Le curry vert, c'est la base. Le curry, c'est ici, on travaille avec le piment vert, avec les ingrédients où je donne un petit détail, vous avez le citronnelle, galanga, dail, piment, un peu de pâte de crevette et les coriandres, surtout les coriandres,
ouais,
le fruit coriandre.
Le fruit bergamote.
Le fruit à citron.
Oui, la feuille de kaffir, comme on dit.
Voilà, exact.
Feuille de kaffir ou bergamote ou citron, voilà. Ou la feuille de citron. Voilà.
Oui. Mais après, on mélange, hein, on ajoute de lait coco, on ajoute des. Jus de tamarin, jus de tamarin, tout ça, quoi. Et sauce de poisson. Et voilà. Après, avec poulet, basilic, aubergine sauvage, ça, c'est. Ça donne envie de manger, quoi.
Les aubergines sauvages sont les petites aubergines un peu violettes, là, qu'on trouve beaucoup en Thaïlande, c'est ça?
Oui, c'est autre chose. Et aussi, c'est plutôt. Ici, en France, on appelle aubergine blanc.
D'accord.
Ouais. C'est un peu vert blanc, mais pas grand, hein, c'est un peu.
Ce qu'on trouve parfois dans les plats en sauce, on trouve des toutes petites aubergines grosses comme des billes. Hein,
Ça c'est le vert, vous parlez là. Ah,
oui, c'est les petites.
On s'appelle bébé aubergine. On l'a dit.
C'est ça, bébé aubergine. Oui, ça a presque un goût d'artichaut, de jeune artichaut.
C'est amer quand même. Hein.
C'est amer, mais ça tire vers l'artichaut un peu.
Ouais, c'est amer, mais dès qu'il y a un goût, ça me donne un peu sucré. Ouais. Dès qu'il y a un goût quand vous venez, voilà.
Et alors le poulet, il est cuit comment dans le poulet au curry vert?
Mais traditionnellement, on fait le bouillir le poulet
dans la sauce curry.
Vous voyez, mais chez nous, c'est souvent
le poulet va cuire dans la sauce.
Oui, oui, mais c'est ce qui va lui permettre d'être tendre aussi.
Mais souvent chez nous, traditionnellement, dans le campagne de ça, on prend le poulet, on coupe petits morceaux. Avec la peau et l'os, on met dedans et ça donne encore plus de goût. Ça, c'est dans la campagne chez nous, quoi.
D'accord, oui, c'est la méthode familiale, on va dire.
Voilà, exactement. Ouais.
Alors, vous avez compris, on parle de curry aujourd'hui. On va aller voir un petit peu, pas très loin de la Thaïlande. On va aller en Indonésie pour voir quelle est la définition et quelles sont les propositions culinaires qu'on fait du curry.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Une émission consacrée au curry aujourd'hui, Manuel. Alors nous avons un premier chef invité en plateau.
Ah oui, Ott Sombat du restaurant Banat, donc à Arcueil. Alors comme le standard explose pour qu'on donne l'adresse du Banat, donc c'est au 63 avenue Laplace à Arcueil. Donc,
C'est 61.
Ah, 61, bah voilà, donc. On corrige, donc 61 avenue Laplace, 94 110 Arcueil. Le numéro de téléphone 01 56 45 20 79. Et c'est un vrai restaurant thaïlandais avec un vrai chef derrière les fourneaux. C'est Ott Sombat, qui était le premier chef du Blue Elephant et qui avait fait une très belle carrière depuis.
Bien, on parlait tout à l'heure du curry de poulet vert.
Non, c'est pas le poulet qui est vert, Philippe. Parce que le curry de poulet vert, moi, je commande pas. Hein.
Ah, ça dépend, c'est délicieux. Il faut s'habituer à tout, Manu.
Il faut aimer les trucs, faisons des. Oui.
Exactement. Qu'est-ce qu'on fait à base de curry rouge?
Curry rouge, mais c'est la base, c'est à peu près la même chose que le vert, mais c'est différent parce que on travaille avec des piments rouges. Voilà, ça donne la couleur rouge.
D'accord.
Et voilà le curry rouge, on peut faire plein de choses aussi. On peut faire des currys pour le magret de canard. On fait aussi pour le.
Attendez, qu'est-ce que vous appelez un curry de magret de canard? Moi, je veux savoir, parce que le magret de canard, c'est quelque chose qu'on mange plutôt rosé, vous voyez, de grillé.
Exact, oui.
Mais à quel moment le curry intervient alors là?
À un moment, après que intervient, le curry intervient, ça dépend de façon des chefs. Les chefs, souvent, ils mettent cuisson à. Dans le bouillon curry tout de suite, mais ça, pour moi, c'est un peu sec. Et moi, le magret canard, pour moi, que je vais d'abord, je vais passer au four où je vais rôtir d'abord, rôtir canard. Après, on voit, je vais passer les currys.
C'est une double cuisson, après. Quoi. Voilà. C'est-à-dire, d'abord, on cuit le canard et après, on le met dans la sauce pour qu'il se nourrisse de la sauce.
Dernière minute, quoi, je vais ajouter la sauce. Dernière minute. C'est pour, il reste quand même un rosé quand on coupe la
Ah graisse. Voilà, parce que le magret, ça va se manger, enfin, rosé.
Oui, enfin, quand on parle de magret en France, Philippe, mais attention, parce qu'il y a le filet de canard et le magret de canard. Alors, le magret de canard, c'est vrai qu'on utilise génériquement le terme magret en France. Je fais juste une parenthèse technique au niveau du vocabulaire. En fait, un filet de canard et un magret de canard, c'est la même chose, sauf que Le magret de canard, il est issu d'un canard qui a été gavé, dont on s'est servi pour faire du foie gras. Donc, il est plus gras que le filet de canard qu'on va trouver sur un canard non gavé.
La peau est plus épaisse, en fait.
Voilà, exactement.
Ouais. Voilà. Et non, mais souvent, oubliez pas que les Asiatiques, ils mangent beaucoup à... Beaucoup, c'est bien cuit, quoi. Les Asiatiques, le côté asiatique, ils mangent soit la viande ou ce soit volaille.
Ils n'ont pas la culture qu'on a en France, par exemple, pour le magret, de le manger saignant. En fait.
Exactement.
Il ouais. Y a des plats quand même qu'on mange pratiquement cru. L'apnea,
c'est ça.
C'est thaïlandais, laotien,
ouais,
ça.
Ouais. Laotien, thaïlandais, côté nord-est, plutôt, il y a beaucoup de nord-est. En fait, surtout dans les campagnes, les gens qui sont tuent la vache comme ça, ils coupent. Vraiment, derrière, ouais. Le coupe, vraiment, les corps vivants, la viande, quand on voit toujours là, ils sont mélangés et puis ils mangent comme ça, quoi. Ça, c'est en campagne, quoi. Ça, c'est
le, c'est vraiment, le tartare revisité, c'est un peu tartare
roots.
Vivant.
C'est un peu roots.
Ouais.
Alors, Nina Nafi qui est au téléphone avec nous, Nina Nafi du restaurant Jakarta Bali. Bonjour, Nina.
Bonjour, Manuel.
Bon, est-ce qu'on mange la viande presque vivante en Indonésie aussi?
En Indonésie, c'est rare qu'on la mange crue, la viande.
Mais on mange du canard en Indonésie, on mange beaucoup de bébec. Oui.
Beaucoup de bébec. Bonjour Philippe.
Bonjour Nina.
Surtout à Bali, les bébec des rizières.
Ah d'accord, c'est bébec des rizières. Il y a du canard des rizières, ouais. Nina.
Du côté d'Ubud, on mange beaucoup de bébec.
Voilà.
Bon, alors Nina, est-ce que vous connaissez, je sais que vous êtes une grande gourmande et vous aimez aller au restaurant, est-ce que vous connaissez déjà Haute Sambat?
Haute Sambat, oui, bien sûr, je connais le chef Haute Sambat. Je l'ai connu depuis le 15e, je l'ai suivi.
Ah, depuis le 15e, d'accord. Bon.
15e. Bonjour. Hein.
Depuis le 15e siècle, je ne sais pas que vous étiez aussi...
Non, depuis le 15e arrondissement, ah bon quand il était dans le 15e arrondissement, voilà. Ouais, et donc Haute Sambat, comme on le disait, avant le 15e arrondissement, qui était également le chef du Blue Elephant, avec Manuel Damota Vega comme directeur, que je salue au passage. J'en profite. Alors, Nina, on parlait des currys thaïlandais. Parlons des currys indonésiens qui sont, en fait, on parle pas en Indonésie de curry, on parle de pâte d'épices.
Oui.
Et la pâte d'épices en Indonésie, enfin, la ménagère indonésienne, quand elle se lève le matin, la première chose qu'elle fait, c'est d'aller acheter des ingrédients pour sa pâte d'épices. Parce
que vous-même, qui êtes une ménagère indonésienne, c'est ce que vous faites, Manu, j'imagine.
Absolument.
Bien. Bah, peut-être que Nina va nous expliquer ce que fait la ménagère indonésienne.
Alors, pour se substituer à la ménagère indonésienne, les ibu-ibu, donc les dames en Indonésie, effectivement, vont au marché. Et en fait, il y a deux grandes familles de pâtes d'épices. Il y a la pâte d'épices blanche, donc qui sera sans piment, et la deuxième qui est à base de piment, de citronnelle, galanga. Voilà. Donc, ce sont des bases sur lesquelles après on peut varier en rajoutant le lait de coco ou pas, selon les plats que l'on veut préparer.
D'accord. Il y a un cousinage un petit peu quand même dans les ingrédients et le lait de coco avec le curry thaïlandais.
Beaucoup.
Oui.
Beaucoup de cousinage entre nos deux cuisines.
Le saté aussi, oui. Le saté qui a un grand cousinage, ouais. Même, oui.
Le saté, le lait de coco qui est souvent employé.
Le canard, vous le disiez tout à l'heure.
Le canard, bien sûr. Nous, notre cuisine, en fait, comme on est un si grand archipel, on travaille toutes les viandes, hein. Toutes les viandes, les poissons. Donc, la cuisine est plus ou moins épicée selon les îles et les régions. Voilà, donc la première pâte d'épices, elle sera à base d'ail, d'oignon, de comiri, c'est ce qu'on appelle la candle nut.
Ah oui, candle nut, c'est cette fameuse graine là, qu'on trouve pas en France, quoi. C'est très dur à trouver en France, voilà.
Ouais. Entre la noix de macadamia et elle ne se consomme pas en fait. C'est un liant pour nos pâtes d'épices.
Ah d'accord, c'est pas, il y a pas de goût, c'est juste un liant en fait, une colle quoi.
Ça donne un gras.
D'accord.
Un gras, elle ne se consomme pas à même la noix. On peut pas
d'accord,
la
noyer oui.
Comme la noisette quoi.
À moins d'avoir très bonnes dents.
Voilà. Et donc avec la feuille de salam, qui va remplacer un petit peu comme le laurier ici, hein. Voilà. Et tout ça, c'est ce qu'on passe au pilon, hein, pour en faire une pâte épaisse, et ce sera la pâte blanche.
Oui, parce que les pâtes d'épices indonésiennes se font exclusivement au pilon, c'est ça?
Oui, absolument, au pilon.
Hot, en Thaïlande, comment est-ce qu'on écrase les épices? On fait ça au pilon, on fait ça au mixeur, oui, au pilon également.
Pilon, mais maintenant, c'est plutôt un mixeur. Hein.
Oui, oui, bon, bien sûr, mais bon, je parle dans la campagne thaïlandaise.
C'est au pilon, ouais, c'est toujours, ouais.
Mais est-ce que c'est aussi bon d'ailleurs au mixeur? Est-ce qu'on a exactement le même résultat? Je suis pas sûr, hein.
Non, c'est différent. Un peu différent. Ouais.
Vous savez, quand vous faites ça au mixeur, ça tourne tellement vite, Philippe, que ça cuit un peu. Ça, avec la chaleur, ça tourne tellement vite, ça génère de la chaleur et donc ça va cuire vos épices et forcément le goût est différent.
Et c'est les grains en fait qui va changer aussi.
On vous entend loin, Nina?
Non, on entend.
Ah.
Pas bouger.
Ah, ça va beaucoup mieux.
Voilà.
Oui, donc en Indonésie également, hein, c'est tout 100% au pilon, hein, c'est ce qu'on disait. Allô?
Oui.
Oui.
Au pilon,
ouais. Alors, est-ce qu'on utilise le terme de curry malgré tout de temps en temps dans la cuisine indonésienne? Est-ce que ça existe?
Non, jamais.
Jamais, hein, c'est ça. Hein, c'est pâte d'épices ou rien.
Oui.
Et les pâtes d'épices, c'est une. Est-ce qu'il y a des recettes gravées dans le marbre au niveau de la pâte d'épices ou est-ce que chaque ménagère a sa recette, son feeling pour la pâte d'épices?
C'est absolument ça, Manuel. Chaque ménagère a sa pâte. Et effectivement, il y a des standards dans les recettes, par exemple du rendang, par exemple le bœuf mijoté au lait de coco qui est sumatrané.
Alors le rendang, on parlait tout à l'heure donc du massaman d'agneau, je parlais de la mourousia marocaine qui sont des plats mijoter des plats qui marinent longtemps, qui mijotent longtemps, etc. Et ben le rendang en est encore un exemple. Et donc
c'est un plat qui mijote pendant plus de 5 heures au feu doux, au lait de coco avec des épices, avec la feuille de curcuma. On utilise plus volontiers la feuille de curcuma dans ce plat-là. Mmh. On met de la noix de coco râpée, fraîchement râpé, le lait de coco aussi est en colis avec un peu d'anis étoilé, du tamarin et l'ail et l'oignon qui reviennent toujours dans les recettes.
D'accord. Alors, le rendang, qui, je le rappelle, pour la troisième année consécutive, Philippe, a été élu meilleur plat du monde par les lecteurs de CNN Travel. Donc, et puis en troisième position, il y a les brochettes de poulet saté, qui là sont justement communes à la cuisine thaïlandaise et à la cuisine indonésienne.
Et malaisienne.
Et malaisienne, voilà. Etc. Ah, oui.
Et je dois dire que peut-être que pour avoir mangé beaucoup de rindang, on mange peut-être un des meilleurs rindang du monde chez Nin Hanafi.
Absolument. Ouais.
Qui fait un rindang rue Vauvilliers, à tomber par terre.
Donc, Jakarta Bali, 9 rue Vauvilliers à Paris 1er. Restaurant depuis combien de temps? Plus de 30 ans maintenant.
34 ans.
Oh là là, ça nous rajeunit pas. Et quel restaurant le plus fréquenté, hein, comme je vous connais, vous êtes modeste, vous le direz pas, mais moi je vais le dire, qui est fréquenté par toute la diaspora indonésienne, les ambassadeurs, c'est le rendez-vous des Indonésiens de Paris.
Oui, et pas seulement, heureusement.
Heureusement, bien sûr. Il y a Philippe et moi également qui venons.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la réputation du rindang commence petit à petit à s'élargir. Ça devient vraiment un plat international. Vous connaissez, Haute, le rindang, le bœuf rindang?
Non, pas.
Voilà. Ouais, c'est comme un peu comme le massaman, mais avec le bœuf. Ouais.
Bah, il faudrait que vous veniez, chef.
Ah, avec plaisir. Ouais, je
vais venir vous rendre visite.
Vous allez faire des échanges. Vous allez faire des échanges.
Ah, ouais, avec plaisir.
Bien, on parle d'Indonésie, l'Indonésie qui communique avec une campagne de publicité sur TF1 qui a démarré mercredi, donc vous pouvez regarder. Et puis comme je suis d'excellente humeur, et je sais que vous êtes nombreux à vouloir partir en Indonésie pour les fins de l'année, il y a une petite île qui est très très peu connue au sud-est de Bali qui s'appelle Nusa Penida. Regardez
Penida, oui.
Sur internet.
C'est sur le site booking.com. Oui.
Broken Beach. Vous allez voir, c'est pas mal. Vous connaissez Nina?
Broken Beach, non. Nusa Penida, je connais, Philippe.
Ouais.
Broken Beach, je ne connais pas.
Vous voilà. Ça ressemble. Non, ça ressemble un petit peu à Etretat.
Ah, très bien.
Voilà, oui, c'est un peu des roches qui tombent dans la mer,
ah,
comme ça.
Ah, très bien. Ouais. Alors, peut-être que ça peut s'appeler bateau volant.
Alors, ça peut aussi, exactement. Mais c'est magnifique. Voilà, c'est un des endroits à découvrir pour ceux qui vont aller s'envoler en Indonésie prochainement.
Là, vous parlez de cette ville qui était dans le classement des 10 meilleures destinations.
C'est des destinations à aller et à découvrir, voilà, en 2019.
Et il y a Ouarzazate en quatrième position, je le précise. Et vous pouvez aller voir sur le site de Beurre FM, sur le site beurrefm.net, vous avez la liste de ces 10 destinations. Alors oubliez, hein, Ibiza, Miami, Saint-Tropez, tout ça c'est fini. Vous avez les nouvelles destinations tendances sur le site de Beurre FM.
Merci Nine.
Merci beaucoup Philippe, Manuel.
Et à bientôt pour un rendang. Alors on viendra avec Hot.
Au revoir, à très vite. Merci.
Au revoir.
On continue à visiter et à goûter ces curies du monde. Et là, nous allons partir en Inde dans un instant.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
C'est parce qu'un temps de saison, hein, et on peut manger du curry en ce moment, puisqu'on parle des currys aujourd'hui avec notre invité qui est sur le plateau, Manu.
Voilà, des currys et des pâtes d'épices, hein, puisque comme on le disait, curry c'est un terme d'origine tamoule qui a été ramené par les Anglais et qui est devenu un peu générique pour appeler tout ce qui est pâtes d'épices, mais on parle bien de pâtes d'épices et on est en train de faire un tour du monde avec nos invités, Aude Sombat puis Nina Nafi. Et puis tout à l'heure, on va écouter dans une seconde Thai Absied du restaurant Jaipur Café qui va nous parler de ça. Mais effectivement, on fait le tour du monde, j'ai envie de dire, plutôt des pâtes d'épices, Philippe, que du curry.
Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que jaune le curry.
Ça,
hein,
n'est pas que jaune,
voilà,
absolument.
C'est de toutes les couleurs. Ben, justement, vous êtes allé sur le terrain, Manu, parce que je sais comment vous êtes consciencieux et vous voulez goûter pour vous faire une idée.
Je suis allé goûter tous les currys, absolument, au Jaipur Café. Non, c'est pas vrai, pas tous, parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est un restaurant indien et qui fait la cuisine indienne et pakistanaise qui a une très belle carte. Avec des currys, vous savez, Philippe, quand on va dans les restaurants indiens, souvent, quel que soit le curry qu'on choisisse, ils ont toujours à peu près le même goût. Hein, c'est un truc, moi, qui m'agace. Ils portent des noms différents, les ingrédients sont différents, mais à chaque fois, les currys ont à peu près le même goût. Alors, il y en a un, on rajoute des cacahuètes, des noix de cajou, je ne sais quoi. Mais là, au Jaipur Café, ce que j'aime là-bas, d'ailleurs, on est allé dîner ensemble il y a quelques temps, Philippe, hein, c'est que tous les currys ont vraiment un goût différent, spécifique. Donc, c'est une vraie cuisine de cuisiniers. On est allé interviewer donc Thai Absied, le patron du Jaipur Café. On l'écoute tout de suite. Thai Absied, bonjour. Nous sommes dans votre restaurant, le Jaipur Café, 15 rue des Messageries, dans le 10e arrondissement à Paris. C'est un restaurant indien, on peut dire indien ou d'une région en particulier ?
Non, c'est on peut dire indien pakistanais, la cuisine classique.
Aujourd'hui, on parle de curry. Dans la cuisine indienne, on entend parler de curry, mais on entend parler de masala aussi. Alors, c'est quoi la différence ? C'est quoi le curry ? C'est quoi le masala ?
C'est une très bonne question parce que souvent notre client nous propose c'est quoi le curry, parce que les gens pensent que c'est curry, c'est un seul fruit, vous savez, c'est un fruit qui s'appelle le curry, donc les gens pensent souvent celui-là. Il faut dire ah ouais, on a du allergique de curry, donc là chaque fois j'explique à ma client, je lui dis c'est le curry, c'est le mélange des épices. Donc la base à l'époque on disait masala, mais en fait quand ils sont venus des Anglais, et donc masala c'est le mot plutôt pratiqué par la langue tamoule qui était venu ensuite curry et curry, donc d'où la chose masala, c'est des épices, mélange c'est la même chose, donc on dit du curry, donc c'est plusieurs épices quand on a marié avec des oignons, le tomate et ses préparations en rajoutant là tous les poudres de épices, pas beaucoup, donc ça vient sur ce curry, c'est basique.
Donc, on l'a compris, le curry, c'est non pas une épice, mais un mélange d'épices. Alors, chacun de ces mélanges d'épices, une fois qu'ils sont cuisinés, portant un nom différent, alors qu'on appelle donc des currys. Quels sont les trois currys les plus répandus, les deux ou trois currys les plus répandus en Inde ?
C'est une très très bonne question, en fait. Le curry, c'est très très répandu, en fait, on peut dire très connu au niveau de notre cuisine. C'est du tikka masala, donc la sauce masala, c'est la base du curry. Ensuite, on a du poulet butter. Et ensuite, on a du très fameux pour les chais korma. Ouais, chais korma, en fait, c'est la base de korma, la sauce. Voilà, donc après, on a du plusieurs vindaloo. Après, on a du madras. Donc, on a plusieurs types de curry.
Le curry, on l'accompagne soit avec du riz, soit avec du pain. Est-ce que, selon les régions, est-ce qu'on utilise plus le pain ou plus le riz, ou est-ce que c'est mélangé?
Alors là, c'est, en fait, ça dépend de la région. En fait, si vous allez vers le Punjab, le nord, là-bas, c'est plutôt c'est chapati. Donc le curry, ça passe beaucoup mieux avec le chapati, tandoori roti. Voilà, on peut dire comme ça. Et si vous allez vers le sud de l'Inde, là-bas, les gens sont plus à l'aise curry avec du riz. Mais ça passe avec du riz ou soit chapati, ça passe très très bien.
Oui, donc le chapati, c'est les galettes de pain. L'Inde, c'est un pays qui a beaucoup compté dans la route des épices. Et du coup, il y a eu un gros intérêt pour les pays colonialistes comme les Britanniques pour l'Inde, qui sont restés assez longtemps en Inde. Est-ce que ça a eu des influences sur la cuisine indienne? Est-ce qu'il y a des plats qui, à la base, existaient d'une certaine manière et qui ont changé sous l'influence britannique, ou bien des plats qui n'existaient pas du tout et qui sont apparus avec les Britanniques?
Bah écoutez, apparemment pour moi, je crois que c'est la cuisine indienne, ça reste toujours la cuisine indienne, c'est pas changé par rapport comme d'autres pays qui sont colonisés, donc ensuite ils sont changés certains plats, mais pour l'Inde, apparemment ça restait toujours le même plat, ils sont pas changés en fait. Ils sont toujours restés avec des épices, ils sont bien attachés.
On a vu que les currys, en fait, c'était des mélanges d'épices différents. Mais est-ce qu'il y a une, deux ou peut-être trois épices qu'on retrouve dans tous les currys?
Oui, pour tous les currys, c'est du cumin, cardamone, gingembre, poivre. On trouve dans toutes les currys. Après, c'est le curry, vous savez, c'est le curry qu'on peut établir la couleur aussi. La couleur, c'est-à-dire que si vous trouvez le curry de Tamoul, par exemple, c'est noir. Mais si vous trouvez le curry du nord, un peu jaune et orange, donc ça, on peut tabler par rapport de région, quoi. Donc ça, là, change de couleur un peu. Voilà.
En Inde, dans le curry, est-ce qu'on utilise que des épices en poudre, ou est-ce que dans certaines recettes de curry, on utilise également des épices fraîches? Je pense notamment au gingembre ou au curcuma ou à d'autres épices.
Bah écoutez, oui, généralement, la plupart, c'est du poudre. Et même pour le frais, c'est du gingembre, coriandre, surtout, mais la plupart, c'est du poudre qu'on utilise au niveau du curry sauce.
Dans l'esprit des Européens, épicé égale pimenté. Mais tous les currys ne sont pas épicés. Il y a des currys qui sont très doux. Je pense au saï korma, au butter chicken.
Oui, tout à fait. En fait, quand on parle des épices, c'est pour le parfumer. C'est pas piquante. Donc la sauce curry qu'on peut établir par tout est nouveau. C'est-à-dire que si vous voulez en manger dans un restaurant indien, pas du tout épicé, c'est doux. Moyennement épicé, c'est possible. Très très relevé aussi, c'est possible. C'est comme vous avez bien dit que pour les tikka masala, c'est la sauce moyennement épicée. Pour les korma, c'est très doux, très léger. Donc, ouais.
Donc on peut même sortir au restaurant indien en famille avec les enfants. Il y aura toujours des plats adaptés, y compris aux enfants. Donc Tayyab Syed, on va rappeler l'adresse du Jaipur Café, 15 rue des Messageries, à Paris 10e. Vous êtes ouvert tous les jours et les viandes, je le précise, sont halal. Merci Tayyab.
Merci à vous.
Atsamba, vous êtes avec nous sur le plateau. Vous vous retrouvez, vous, dans les... Parce qu'il dit qu'il y a des épices qu'on retrouve hein, dans tous les currys. Vous retrouvez dans la cuisine thaïlandaise, par exemple, on ne retrouve pas ces épices-là dans la base du curry.
Sur le curry, c'est à peu près, on retrouve la même chose, c'est entre la pâte de vert et rouge. Mais d'accord. C'est un peu différent, c'est les piments Il y a que piment rouge, oui, piment vert, piment rouge, voilà, c'est ça, oui. Et voilà.
Mais sinon, qu'est-ce qui, c'est uniquement le piment qui donne la couleur rouge au curry rouge, ou il y a des poivrons aussi rouges?
Non, qu'est-ce qu'il y a
d'autre?
On a le piment, parce qu'on met aussi le piment, parfois on met aussi le piment, un peu, on s'appelle Fik Shifa chez nous, c'est un peu plus grand que le piment lourd.
D'accord, oui.
Et séché, comment.
Voilà, d'accord, aussi. Oui, comme il est séché, il colore beaucoup. Là,
voilà,
oui.
Aussi, ouais. Aussi.
Ouais. Mais le piment, quand on le sèche, il est torréfié, donc il y a le colorant qui est très actif.
Ouais. On met là aussi les échalotes, tout ça. Oui, c'est retrouve un peu les mêmes choses, mais après on change un peu les trucs.
Beaucoup d'échalotes, oui, dans la cuisine thaïlandaise. C'est un des pays d'Asie où on cuisine le plus l'échalote, parce que c'est vrai que dans les pays autour, on en trouve effectivement un peu au Laos, au Cambodge.
Ouais.
Mais c'est vrai que, bon, l'Asie du Sud-Est, on consomme beaucoup d'échalotes.
Échalotes,
oui. Ouais, beaucoup plus que dans le reste de l'Asie.
C'est vrai. C'est surtout côté nord, nord et nord-est, ça on utilisait beaucoup. Pour le salade, même pour le lap, tout ça. Vous voyez, même dans le soupe.
Oui.
Aussi, c'est pareil, on la met beaucoup.
Alors, les échalotes, justement, dans les soupes, puisque vous en parlez, Otsombat, les échalotes qu'on trouve dans les soupes ou dans les plats en général en Thaïlande, quand on est en Thaïlande, elles n'ont pas du tout le même goût que les échalotes qu'on trouve en France, même dans les magasins d'alimentation asiatique, etc. Est-ce que c'est une variété d'échalotes spécifique?
Oui, parce c'est différent.
Oui, ça donne vraiment un goût particulier au curry.
Oui, parce qu'en fait, c'est le goût... Parce que échalotes ici, on trouve ici en France, c'est grand, hein, c'est
oui,
gros.
Oui, c'est gros, échalotes, c'est
mais
piquant.
Là-bas, c'est vraiment c'est comme le... Mmh. Là,
comme le bout du pouce, oui.
Voilà, c'est le bout du pouce là-bas.
C'est presque sucré des fois.
Voilà, parfois, ouais. Oui. Même de dail. Dail, c'est pareil. Ici, je ne peux pas manger cru. En Thaïlande, je suis capable de manger cru parce que c'est plus fin, plus petit et il n'y a plus de liquide dedans. C'est plus craquant, il n'y a plus de liquide. Ici, c'est pâteux.
Oui, parce qu'il est plus frais déjà. On utilise de l'ail frais et même de la ciboule d'ail en fait, du verre de d'ail nouveau.
Est-ce qui veut dire que pour cuisiner au restaurant, vous importez, vous faites venir vos échalotes, votre ail de Thaïlande?
Moi, je ne peux pas faire importer de Thaïlande, mais on peut trouver toujours ici dans 13e.
Voilà. Vous cuisinez avec vraiment les produits qui viennent
exact,
de là-bas.
Oui, exactement, oui. Ça vient là-bas parce que comme ils ont fait venir deux fois par semaine par l'avion, oui. Et ils sont tous frais. Et...
Alors, j'ai vu qu'il y avait un supermarché spécifique thaïlandais qui s'était ouvert. Je crois que c'est Avenue d'Ivry, c'est tout rouge, j'ai oublié le nom. Mais ils affichent bien Thai Market.
Thai Market.
Alors, bah, peut-être que je vous l'apprends alors, mais c'est assez récent, j'ai vu ça.
Ah bon, moi, je connais des endroits que j'y vais souvent.
Oui, vous avez vos habitudes. Souvent,
c'est le Paris Store. Bah.
Alors, c'est vrai que Paris Store, on trouve effectivement des produits d'Asie du Sud-Est pas mal, oui.
Mais vous ne pourriez pas reproduire vos recettes finalement avec les produits d'ici parce qu'elles n'auraient pas le même goût.
Ça dépend du plat. Parfois, on doit adapter aussi. Mmh. Parce qu'on ne peut pas faire...
Parce que l'eau n'a pas le même goût non plus. Il y a plein de choses qui n'ont pas le même goût finalement et qui changent beaucoup le goût de la recette originale.
Oui, ça change, mais il n'y a pas beaucoup de différents. Mais vous savez que, c'est vrai, il y a beaucoup de chefs qui viennent de chez nous. Quand on dit, voilà, piment, par exemple, le piment à fixifa, je donne un peu long. On dit, ouais, ici, on n'a pas de piment là, on ne peut pas travailler. Si, on peut toujours travailler. Vous savez, il y a piment long, ça vient de Maroc, ça vient en Espagne. Des piments rouges, longs, là.
Oui, les piments cornes.
Voilà. Ça, oui. Ça, on peut aussi, parce que c'est le même, en Thaïlande, c'est encore plus petit, c'est la même forme, mais c'est en plus petit.
Oui, ils sont encore plus forts en Thaïlande.
Plus forts en Thaïlande, mais on peut travailler avec ça.
D'accord. On garde le goût original.
Voilà.
Alors, justement, on disait tout à l'heure que vous faites une cuisine, d'auteur, je dirais. Vous faites de la cuisine créative parce que vous êtes un vrai chef. Vous faites pas que des plats standards thaïlandais. Est-ce que vous avez étudié un peu la cuisine française aussi pour utiliser des techniques pour
moi j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de les techniques de cuisine française. Mais on fait avec les recettes traditionnelles. Ouais, c'est vraiment incroyable.
On rappelle l'adresse de votre restaurant.
Absolument, donc le restaurant Ban Nat, 61 avenue Laplace à Arcueil. Et puis l'adresse du restaurant de Thaï Apsiel, le Jaipur Café qu'on n'a pas donné, qu'on a oublié de donner tout à l'heure. C'est le Jaipur Café, 15 rue des Messageries, à Paris 10e. Mais dès que le podcast sera en ligne sur le site beurrefm.net, de toute façon, on vous donnera toutes les adresses avec les liens vers les sites internet, les pages Facebook. vous aurez tous les détails.
Hot, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci.
Bref, FM reste avec vous toute la journée. On reprendra l'antenne s'il se passe quelque chose.
Absolument.
Façon, en direct, passez un bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.